9h-11h,
François Claus.
Le tour de la question, deuxième heure. J'étais un peu provocateur, Julie, en disant que nous allions rester dans une forme de biodiversité et parler d'une espèce qu'il faut protéger également. Mais c'est le cas, nos enfants, et notamment nos enfants à l'école. On voulait revenir évidemment sur cette annonce assez forte et qui fut finalement l'une des plus étayées avec celle des retraites du côté du président de la République lorsqu'il s'est exprimé dans les conclusions du grand débat. C'était, souvenez-vous, mercredi soir. Parmi ces annonces, il y eut celle-ci.
Donner à chacun les mêmes chances pour réussir et donner les moyens de mieux enseigner. Depuis 2 ans, c'est ce que nous avons largement commencé à faire. Là aussi, je souhaite que nous puissions aller plus loin. Et j'ai demandé au gouvernement d'y travailler, de pouvoir étendre le dédoublement des classes qui fonctionne et a déjà des très bons résultats dans les quartiers défavorisés, de l'étendre à la grande section de maternelle, mais de pouvoir dans toutes les écoles de la République, de la grande section de maternelle au CE1, avoir des classes à taille humaine, c'est-à-dire qui ne dépassent jamais 24 élèves.
Voilà, l'objectif est fixé, 24 par classe. C'est la question, Julie, que nous avons posée sur Facebook ce matin, nos auditeurs.
Oui, c'est ça, 24 élèves par classe, ça touche le primaire uniquement. Hein, c'est ça,
on va y venir, oui, bien sûr. Okay. Même trois des classes du primaire, enfin, de la grande maternelle jusqu'au CE1.
Est-ce la solution pour améliorer l'école de nos enfants? Oui, à 64%, mais il y a eu beaucoup de votes, hein, plus de 11 000 votes.
Pourtant, c'est les vacances scolaires, hein, vous voyez, l'école continue à passionner nos auditeurs avec des témoignages assez forts, hein, Julie.
Alors, Diego nous dit, oui, c'est une solution, si elle est couplée à d'autres mesures, augmentation du nombre de profs, augmentation des salaires, hausse du niveau, etc. Un autre témoignage, Sandrine nous dit « L'idéal serait d'avoir 20 élèves par classe. » Alors on propose 24, ça ne lui suffit pas. « Nous étions plusieurs classes dans la même salle et les résultats étaient bons, très peu d'échecs et une discipline de fer. C'était une autre époque, l'époque de Genièvre qui signe ce message. »
C'était un autre temps. Bonjour Éric Charbonnier.
Bonjour.
Vous êtes expert éducation à l'OCDE et on va voir avec vous justement pour répondre aux interrogations de nos auditeurs de manière... c'est forcément un débat, et on le voit bien dans les appels qu'on a, mais on va essayer d'être le plus instit possible, si je puis dire, le plus pédagogue, c'est-à-dire de voir comment c'est possible, pourquoi ça n'a pas été fait avant, comment ça doit être accompagné, combien ça peut coûter, et quels sont, et à quelle échéance, les résultats qu'on peut attendre d'une telle mesure. Nous avons également au téléphone, évidemment, beaucoup d'enseignants qui appellent, mais nous avons Cécile. Bonjour Cécile.
Bonjour.
Cécile, vous êtes institutrice dans la région parisienne, dans le département de la Seine-Saint-Denis, et vous, dans une école privée, mais à objectif public. Hein.
Oui, exactement, mais c'est une école sous contrat avec l'État. Oui.
Alors, je voulais donner la parole, avant de revenir avec Éric Charbonnier sur l'annonce d'Emmanuel Macron, à la femme de terrain. Qu'est-ce que ça veut dire pour un instituteur avoir 20, 24 ou 30 élèves, qu'est-ce que ça change réellement?
Alors ça change tout, surtout sur des niveaux comme le CP et le CE1 où il y a énormément de choses qui sont mises en place avec les élèves et les enfants. 24 élèves par classe, ça fait rêver tous les instituteurs, ça c'est sûr. Oui, ça change tout et c'est une très bonne décision. Après, il va falloir se donner les moyens de tout ça. Mais
vous avez combien d'élèves, vous, par exemple, Cécile, vous avez combien d'élèves aujourd'hui dans votre classe?
Alors, moi, je suis en CM2 et j'ai 28 élèves.
28 élèves en CM2. Ça veut dire, quand vous avez 24 au lieu de 28, c'est plus de temps avec chacun des enfants, c'est donc plus d'apprentissage, c'est plus d'encadrement?
Oui, c'est une organisation différente de la classe. Ça paraît rien, 4 élèves, mais quand on a 4 élèves en moins dans une classe, effectivement, on peut passer plus de temps avec les élèves qui en ont besoin, laisser les élèves qui travaillent, qui ont plutôt pas beaucoup de difficultés en autonomie pour pouvoir s'occuper d'un petit groupe d'enfants. Et 4 élèves en moins, c'est pas rien dans une classe.
Alors cet objectif, Éric Charbonnier, finalement, quand on regarde les chiffres, j'étais étonné. On n'est pas, en termes de chiffres, aussi loin de cet objectif des 24 élèves aujourd'hui en France.
Mais c'est qu'on a beaucoup d'écarts en France. On a un chiffre moyen de 24 élèves, mais on a dans des zones rurales du mal à avoir des classes à plus de 20 élèves. Et puis, dans des zones urbaines, vous avez 5% des enseignants en maternelle qui ont plus de 30 élèves dans leur classe. Donc, ça va vraiment aider une bonne partie des enseignants. Et puis, ça va surtout donner une synergie, une énergie au primaire et à l'école maternelle. On a sous-investi pendant très longtemps en France dans ces niveaux d'éducation. La dépense, par exemple, par élève dans l'école élémentaire est de 15% inférieure à la moyenne des pays de l'OCDE. Au lycée, elle est supérieure à 35% à cette moyenne. Donc là, depuis deux gouvernements, il y a vraiment cette volonté de donner la priorité au primaire et puis aussi à l'école maternelle, et c'est très important.
Alors, pour être tout à fait précis, pour répondre à l'interrogation légitime de Julie en début d'émission, la première mesure de l'ère Macron a été de dédoubler les classes de CP et de CE1, donc 15 élèves par classe dans les zones d'éducation prioritaire, les zones difficiles. Aujourd'hui, on nous parle de 24 élèves sur l'ensemble du territoire et d'élargir le dédoublement à la section de grande maternelle, c'est-à-dire à partir de 2 ans et demi, 3 ans, jusqu'à CE1, c'est-à-dire 6 ans. Quoi.
La grande section, c'est vraiment la dernière année de maternelle. Donc ce sont des enfants de l'âge de 5 ans. C'est vraiment la transition entre école maternelle et primaire.
Donc, oui, j'étais très mauvais en maths, j'ai quelques moins 3.
C'est pas toute la maternelle.
C'est de 5 ans à 7 ans.
Voilà, à 6 ans, 7 ans. Voilà, l'entrée en CP, en théorie, est à 6 ans. Et on a cette dernière année de maternelle, la grande section, à l'âge de 5 ans.
Et pourquoi ça, c'est aussi capital? Écoutez comment le président justifiait cela.
Les vraies inégalités sont les inégalités d'origine, les inégalités de destin, les inégalités à la naissance, et qui ne se sont pas améliorées quant à elles. Aussi, pour traiter de ce sujet, il faut agir dès la petite enfance. Le gouvernement a commencé à apporter des réponses à travers ce qu'on a appelé le plan pauvreté. Je crois qu'il faut aller beaucoup plus loin. Certains États européens nous donnent l'exemple. Regarde la Finlande faire. Elle investit massivement dans la petite enfance. Les 1000 premiers jours de vie d'un citoyen français sont décisifs. Sur le plan affectif, sur le plan cognitif, c'est là qu'on construit parfois le pire et qu'on peut bâtir le meilleur.
Les 1000 premiers jours sont décisifs. Les études de l'OCDE, Éric Charbonnier le confirme.
Oui, tout à fait. Les premières années de la vie, ça veut dire aussi l'accueil en crèche. C'est-à-dire que ça commence même avant l'école maternelle, où on se rend compte que ces premières années sont très utiles pour le développement du langage, des nombres, des relations sociales, des capacités socio-émotionnelles des élèves. Ce sont des années ultra importantes. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on réforme notre école maternelle, mais dans les pays nordiques, comme dans Finlande par exemple, on commence dès l'âge de 1 an à être scolarisé, à avoir des enseignants qualifiés, à avoir des objectifs pédagogiques. Donc finalement, il faudrait encore aller plus loin si on pense que ces premiers jours sont fondamentaux.
On aperçoit à travers les études aussi que c'est là que se jouent les premières inégalités, même dès la crèche, et que la vocation, on le rappelle, de l'école de la République, et notamment de les bannir, et que les derniers résultats montraient que c'est malheureusement plutôt le contraire qui se joue. Cécile, vous restez un petit peu avec nous si vous pouvez encore, j'aimerais avoir votre réaction, et on marque, Julie, une courte pause. Bien sûr, on attend vos témoignages, ils sont nombreux, je le vois là déjà au 39-21.
50 centimes la minute. On fait le tour de la question avec laposte.fr/pro. Démarquez-vous en imprimant les timbres aux couleurs de votre entreprise. Oui, c'est possible.
9h-11h, François Claus sur Europe 1.
Europe 1. 24 élèves par classe. Alors, par classe, c'est-à-dire grande section de maternelle, CP et CE1. Ça touche 3 années scolaires. Hein. C'est une des propositions d'Emmanuel Macron la semaine dernière et nous la commentons, cette proposition.
Nous la commentons notamment avec Éric Charbonnier, expert éducation de l'OCDE. C'est l'homme des chiffres, vous avez compris, mais derrière les chiffres, il y a une réalité humaine, celle des enfants, avec vous au 39-21 et avec Cécile, enseignante en CM2. Cécile, lorsque vous avez en CM2, c'est-à-dire 3 ans après les mesures, les classes dans lesquelles va s'appliquer la mesure d'Emmanuel Macron, vous constatez, vous, un changement quand vous avez eu des élèves qui, en CP et CE1, étaient dans des sections moins chargées?
La mesure de dédoublement de classe des CP et CE1 n'est effective que depuis l'année dernière, et il y a 2 ans, on n'a encore pas ces élèves-là en CM2. Par contre, ce qu'on constate en CM2, c'est le manquement quand l'apprentissage de la lecture ne s'est pas fait forcément dans de bonnes conditions. Et effectivement, les dédoublements de classe de CP sur l'apprentissage de la lecture, les enseignantes de CP nous disent que effectivement c'est une très bonne chose et que du coup on aura moins ce travail à faire nous après derrière en CM2 sur des enfants qui ont parfois encore de grandes difficultés dans la lecture et donc dans la compréhension, et du coup des difficultés dans à peu près toutes les matières, puisque la lecture est partout dans les apprentissages après.
Et qu'elle reste évidemment le pilier central. Est-ce que ça veut dire également que vous arriveriez à terme à des classes un petit peu plus homogènes, d'un niveau plus homogène? Le fait qu'il y en ait moins d'élèves dans les apprentissages de base.
Oui, c'est ça. Enfin, c'est-à-dire que les fondamentaux seraient posés et que du coup, effectivement, il y aurait un groupe de classes un peu plus homogène. Après, les difficultés sont nombreuses pour les enfants dans les apprentissages, donc il n'y a pas que la lecture. Mais si les fondamentaux sont posés, on a déjà une base solide qui permet d'aider les enfants sur encore autre chose et d'autres difficultés qui peuvent apparaître au fur et à mesure des apprentissages.
Merci Cécile de votre témoignage de terrain et d'avoir été avec nous en direct dans ce débat. Éric Charbonnier, on s'attaque là au cœur du problème, celui d'une éducation plus homogène et plus égalitaire si on développe ce principe de classe avec 24 élèves seulement.
Exactement, c'est une prise de conscience. Un chiffre, comme je suis l'homme des chiffres, à l'entrée en CP, vous avez 20% des élèves qui maîtrisent à peu près 250 mots. Quand les autres maîtrisent au moins 1200 mots de vocabulaire. Donc on comprend qu'on est le pays du grand écart, et s'attaquer aux inégalités, c'est agir dès l'école maternelle, c'est permettre aux élèves qui n'ont pas un environnement familial aussi propice pour l'apprentissage du vocabulaire d'avoir une aide. Et c'est vrai que la réduction des classes, ça offre beaucoup de solutions aux enseignants, mais ça ne suffira pas. Il faut aussi mettre de la qualité, il faut réfléchir à la formation des enseignants, il faut les préparer justement pour tirer bénéfice de ces classes réduites. Et ça, c'est un aspect sur lequel il serait important d'écouter le ministre, parce que réduire la taille des classes sans agir sur la qualité de l'éducation et des enseignements, ça ne servira à rien. Donc voilà, les enseignants vont être dans des meilleures conditions. Au ministère, aux acteurs, de travailler ensemble pour leur donner les meilleurs moyens de réussir.
Et c'est exactement les questions qu'on va aborder après une nouvelle courte pause, de voir justement ce que ça... On a vu l'intérêt de la mesure avec vous. On va voir comment elle peut s'appliquer. Ça veut dire plus d'enseignants, combien? Ça veut dire plus de formation pour les enseignants, comment? C'est ces questions qu'on va répondre dans un instant, Julie.
Réduction des effectifs par classe à 24 élèves pour améliorer la qualité de l'enseignement. Est-ce la bonne solution? On en parle avec François Claus.
Nos auditeurs disent oui, hein, Julie. Hein, 64% avec plus de 11 000 appels à cette question Facebook. Éric Charbonnier, on est d'accord, c'est ce qu'il faut faire, on l'a compris, l'enjeu est capital. Ça veut dire aussi y mettre des moyens. Donc on va attendre les annonces du gouvernement et notamment du ministre Blanquer. Mais on peut d'ores et déjà chiffrer le nombre de classes que cela implique. Il y a des estimations qui vont entre 3 et 6 000 classes supplémentaires, le fait de mettre 24 élèves par classe.
Oui, c'est vrai que c'est difficile de s'y retrouver dans ces estimations. On entend le gouvernement qui dit qu'il faudra 2 000 classes, les syndicats qui nous disent 10 000 classes. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut avoir une réflexion, justement, comme ce n'est pas toutes les classes de l'école élémentaire et de la maternelle qui vont être concernées. Est-ce que l'idée, ça va être de surcharger les autres classes? Par exemple, on pourrait imaginer des CM1, des CM2 avec davantage d'élèves, ou si est-ce que c'est vraiment de créer davantage de postes d'enseignants? Bien sûr que cette seconde solution serait vraiment plus avantageuse, parce que sinon, on va mettre des difficultés à la fin de l'école élémentaire. Mais je crois qu'il y aura besoin de clarification et d'annonces justement sur la nombre de créations de classes. On sait aussi qu'il va y avoir un recul démographique, mais le recul démographique est assez faible. Vous avez aujourd'hui 6 700 000 élèves scolarisés, école maternelle et primaire. On va en perdre à peu près 300 000 d'ici 2023, donc ça ne suffira pas à compenser cette diminution de la taille des classes.
Alors justement, c'est une préoccupation qui remonte beaucoup au standard et qu'on a entendu dès le lendemain de l'intervention. Habiller, comment on dit l'expression, Julie, habiller Pierre pour déshabiller Paul. On développe la maternelle, il ne faut pas oublier la maternelle, grande section CP, CE1, ne pas oublier le collège et le lycée. C'est votre préoccupation à vous, Marina, qui nous appelait d'Arras.
Tout à fait. C'est très très bien de mettre un point fort sur l'école, parce que pour moi, avec la santé, c'est primordial. Mais en revanche, c'est très bien de s'occuper du primaire. Attention, je ne remets pas en cause, au contraire. Mais il faut quand même dire aux gens que le secondaire, subi une attaque sans précédent du ministre, M. Blanquer.
Quand vous dites attaque, Marina, vous voulez dire quoi, attaque ?
Alors, je précise, c'est des milliers de postes supprimés, des milliers de d'heures de cours dans les matières générales réduites. On ne parle pas de l'éducation au niveau des langues, alors qu'on est européen. C'est l'ouverture vers les autres. Et alors là, c'est pas possible. Et moi, je voudrais vraiment qu'on parle aussi du secondaire, parce que c'est grave ce qui se passe.
Moi, Marina, vous êtes enseignante ou vous êtes parent d'élève ?
Non, je suis parent d'une jeune prof.
Ah, vous êtes parent d'une jeune prof. Donc oui, voilà. qui vous fait part de ces difficultés. Il est clair...
Elle est comme toutes les jeunes profs qu'on balade à droite, à gauche. Et je voudrais dire aussi pour la formation, nous avons, c'est pas par rapport à mon enfant, mais je voudrais faire un cri de, je sais pas comment dire, nous avons d'excellents jeunes profs qui arrivent, qui ont ça dans le sang. Et moi, je suis béat de tous ces jeunes profs qui arrivent. Faut pas les descendre, comme j'entends souvent. Ils ne sont pas formés. Enfin, c'est des masters 5-6. C'est des gosses qui ont été à l'étranger. C'est des gosses qui y croient, qui sont là pour leurs élèves. Il faut pas, quand j'entends pas bonne formation, mais c'est.
On va y venir, Marina, à la question de la formation, et on va essayer de l'aborder de la manière la plus pédagogue possible. Mais votre défense du monde enseignant va recevoir un certain écho, été formulée avec beaucoup de cœur. Merci pour votre appel. Il est clair, Yves Charbonnier, qu'il ne faut pas aujourd'hui négliger le collège pour défendre là où tout se joue, comme le dit le ministre, c'est-à-dire de la grande maternelle au CE2. Il faut créer des postes supplémentaires et former des enseignements supplémentaires.
Oui, il y a deux aspects. Il faut aider les jeunes enseignants, ça c'est une évidence. Aujourd'hui, nos jeunes enseignants sont souvent parachutés dans les écoles les plus difficiles. Ils ne sont pas suffisamment accompagnés, ils n'ont pas accès à une formation continue de qualité. Donc il faut faire plus pour les enseignants. Et puis également, en effet, l'idée n'est pas de supprimer des postes au collège. D'ailleurs, la suppression de postes est assez minime. Vous avez 2000 postes, c'est à peu près moins d'1% des enseignants pour lesquels on a parlé de coupures budgétaires. Donc, il n'y a pas une idée de couper complètement le nombre de postes au collège et au lycée. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'il faut cette lutte contre les inégalités. Elle commence dès l'école maternelle et elle continue, bien sûr, au collège et au lycée. Et il y a une mesure du gouvernement qui est très intéressante, dont on ne parle jamais, c'est ces devoirs faits. Aujourd'hui, on a mis en place dans tous les collèges de France une aide aux devoirs aux élèves. Ça veut dire que quand on a des difficultés, on est aidé à l'intérieur de l'établissement et ça permet justement d'offrir des possibilités à ces jeunes de rattraper leur retard. Donc il y a des choses qui sont faites au collège, il y a des choses qui sont faites au lycée. Aujourd'hui, bien sûr, il faut cette continuité de lutte contre les inégalités, mais la priorité était vraiment nécessaire sur l'école maternelle et le primaire.
Nous avons au téléphone un enseignant militant aussi. Bonjour Nicolas Glière.
Bonjour.
Vous appartenez à ce collectif qui est né au mois de décembre, les Stylos Rouges, ces trans-syndicats, ces trans-tendances. Vous vous battez, vous, pour que l'école s'améliore. Vous entendiez Éric Charbonnier à l'instant. Oui, c'est une bonne mesure, mais j'imagine que vous, derrière, vous venez dire il faut qu'elle soit accompagnée des moyens nécessaires.
Alors, pas seulement. Oui, c'est une bonne mesure. Personne ne peut contester que les premières années de scolarité sont essentielles. Donc, mettre moins d'élèves par classe à ce moment-là, très bien. Mais effectivement, ça va être fait très probablement à moyen constant. C'est catastrophique. C'est ce qui est fait à chaque fois depuis des années à l'école. École, collège, lycée. On supprime des postes à un endroit, on les remet ailleurs. Donc, les inégalités persistent. Les classes sont surchargées au collège et au lycée. Qu'est-ce qui va se passer en CM1, CM2, Monsieur Charbonnier le disait tout à l'heure. Donc il faut y mettre les moyens. Quand on entend que le gouvernement explique depuis bientôt 2 ans que sa priorité est l'école, et très symboliquement que le rang protocolaire, par exemple, du ministre de l'Éducation a reculé, ça nous montre la réalité. Concrètement, ce n'est pas la priorité pour le moment. Donc nous, on attend des actes. Tout simplement à ce niveau-là.
En même temps, Nicolas Glière, les 15 élèves par classe en zone d'éducation prioritaire, c'est en train de se mettre en place. Il est peut-être un peu tôt pour avoir un bilan aussi négatif. Et on n'a pas les annonces, pour le moment, du ministre de l'Éducation, comment il va mettre en œuvre cette mesure. Il y a une forme, j'allais dire, certes, vous avez souffert visiblement ces dernières années, mais de raidissement avant même que la mesure ne soit mise en place.
Il y a de quoi être raide quand on voit les réformes du lycée où on supprime, comme le disait Marina, je crois, cette mère d'enseignante. Quand on voit les suppressions de postes inouïes qui sont faites en lycée pro, en enlevant des heures de matière générale, estimant que les élèves de pro n'ont pas besoin concrètement de faire de la culture G, hein, bien sûr. On a le lycée général où des heures de cours sont supprimées dans plein de matières, où on met les matières en concurrence. C'est l'enfant de la réforme du collège qui avait, en 2007, supprimé plein de postes. Et puis, surtout, je tiens à préciser un point important, il faut que ce soit accompagné par une très nette revalorisation salariale. Nous, chez les Stylos Rouges, nous demandons 40% pour rattraper ce que nous avons perdu depuis 83. Les calculs sont faits, même le ministre ne les a pas contestés, on a été reçus au ministère déjà une première fois, on y retourne bientôt pour en parler, justement.
Et
nos
verra,
chiffres n'ont jamais été contestés.
On verra quelles sont les réponses du ministre à ce moment-là. On sent bien, Éric Charbonnier, que le gouvernement a touché du doigt une réforme juste, mais il va dans un monde qui est aujourd'hui en difficulté et en crise, celui du monde de l'éducation, comme Nicolas l'exprimait à l'instant.
Oui, tout à fait. Et la revalorisation des enseignants, ça doit être un sujet qui doit être abordé. Mais je crois que ce qui est intéressant, c'est de voir que les enseignants débutants ont été revalorisés, ceux qui vont travailler dans les zones prioritaires aussi, c'est une bonne chose. Aujourd'hui, ce sont vraiment les enseignants qui sont en milieu de carrière, après 10 ans, 15 ans d'expérience, qui sont finalement défavorisés par rapport aux jeunes enseignants, mais aussi par rapport aux autres pays. Un enseignant en France avec 10 ans d'expérience gagne 20% de moins que la moyenne des pays de l'OCDE. Donc on voit que c'est une véritable question, mais ce n'est pas l'unique question. Aujourd'hui, il faut vraiment améliorer les conditions de travail des enseignants, créer une culture de coopération à l'intérieur des établissements. Il y a beaucoup de choses aussi pour améliorer le bien-être des enseignants. Et on a l'exemple de la Finlande, où les salaires sont au niveau de la moyenne des pays de l'OCDE, donc pas faramineux, mais il y a vraiment un métier qui est attractif, valorisé par les
parents,
la société.
Après, il y a moins de disparités sociales, moins de disparités territoriales aussi en France, qui sont l'une des difficultés également du corps enseignant. C'est difficile d'enseigner dans les zones rurales où des classes se ferment, c'est difficile d'enseigner dans des zones urbaines où les classes sont surchargées, situation très disparate. Restez bien avec nous, Nicolas, parce qu'on va poursuivre ce débat, et avec vous au 39-21, et avec vous, M. Charbonnier, vous l'avez compris, derrière cette idée de classe à 24, c'est tout le système également qui doit être aujourd'hui amélioré et pour être plus performant.
Europe 1. On retrouve François Claus et son invité Éric Charbonnier, qui est expert éducation à l'OCDE.
Ouais, j'avais des cours de chant, moi, à l'école. Là. Je ne sais pas s'il y en a encore. Là. Je détestais ça à l'époque. Éric Charbonnier, on a une auditrice qui nous appelle de Choisy le Roi. On va l'avoir dans un instant. Mais Nicolas, je voulais vous faire réagir, puisque vous étiez avec nous, membre des Stylos Rouges. Au-delà de la revendication catégorielle, pour vous, derrière ces classes à 24, il faut que le gouvernement aille très loin dans la réforme globale. C'est votre thèse.
Alors, c'est notre thèse, c'est notre manifeste. On a rédigé un document pour exposer nos revendications, qu'on a pu exposer au ministère, justement. Elles sont très claires. Oui, il faut un effort massif parce qu'on n'a pas à payer l'incurie de 40 ans de gouvernement qui ont oublié l'école et les profs et les personnels qui travaillent dans l'éducation nationale en général. On a été complètement oubliés. Je vous ai dit, il y a un décrochage de 40% de pouvoir d'achat depuis 83. Encore une fois, ce n'est pas un chiffre fantaisiste. Donc nous, on demande vraiment à ce qu'il y ait un effort de fait, puis un effort fait aussi dans le respect qui nous est dû par notre hiérarchie. Cette hiérarchie qui n'est pas toujours là pour nous aider, qui camoufle parfois des faits de violence à l'école, qui n'aident pas les collègues. Il faut aussi être très clair sur les mots qui parfois harcèlent les collègues. Le monde de l'éducation est vraiment très, très curieux. Les témoignages sont édifiants, pas de vagues, je pense que vous avez suivi. Donc voilà, nos demandes...
Oui, on le comprend. C'est assez, d'ailleurs, de voir le parallèle entre votre situation et celle des maires. Vous avez été mis, finalement, vous, en quelque sorte, les enseignants, en première ligne de la grande réforme de l'acte 2 du quinquennat d'Emmanuel Macron, tout comme les maires, qui, très négligés au début, puisque le président n'allait pas les voir au congrès des maires, et qui deviennent, j'allais dire, le bras armé et avancé des réformes à venir. Merci beaucoup d'avoir exprimé votre témoignage, celui, on l'a compris, des Stylos Rouges au téléphone. Je parlais de monde à vif, Éric Charbonnier, et on le comprend, les difficultés sont nombreuses pour ces enseignants au quotidien. D'aller vers cet objectif de 24 passera forcément par des moyens très, très, très importants.
Oui, oui, ça doit être une réflexion profonde, mais encore une fois, le chantier des enseignants, c'est un chantier vraiment global. Il faut aborder le sujet de la rémunération, mais aussi la formation continue, l'évaluation. Je crois qu'il faudrait vraiment ouvrir un grand chantier et ne pas se focaliser uniquement sur la rémunération.
Alors, on l'a bien compris, puisqu'on a construit notre débat à partir des classes à 24, et on s'aperçoit que c'est tout le fil de l'éducation nationale qui se déroule. Est-ce qu'on a pour quand même une première évaluation, Eric Charbonnier, de la mesure de l'année dernière des 15 élèves par classe dans les zones d'éducation prioritaire?
Oui, alors, les CPCE1 dédoublés, il y a eu des premiers résultats qui sont sortis, qui sont encourageants, c'est-à-dire que c'est assez récent. On a pu voir une progression des élèves entre le CP et le CE1. Alors maintenant, il faudra voir si cette progression est plus forte dans le temps, et je crois qu'il faudrait surtout essayer d'analyser plus en détail les bonnes pratiques. C'est-à-dire que dans certains CP dédoublés, on a eu des meilleurs résultats que dans d'autres. Donc, quelles sont les pratiques pédagogiques qui ont été utilisées? Qu'est-ce qui a marché et qui pourrait être utilisé par toutes les classes? Donc, ça marche, c'est encourageant,
Attendre. Mais alors, d'autant plus qu'on rappelle que cette mesure, 24 élèves par classe, grande section de maternelle, CP, CE1 partout dans le territoire, il faut que ce soit lancé en 2020, rentrée 2020, c'est-à-dire demain.
Oui, oui, ça pose une question de locaux. On sait que nos locaux sont plutôt vieillots en France.
Alors les locaux, justement, je vous interromps avant de... Nous avons Pascal qui nous appelle de Rennes, excusez-moi, monsieur Charbonnier, mais le témoignage de terrain est toujours important et on va y revenir après à la réponse que je vous ai interdite de formuler entièrement. Bonjour Pascal.
Bonjour.
Vous nous appelez de Rennes, Pascal.
Oui, voilà. Alors, sûrement que vous allez tomber de vos chaises. Dans les années 91, mon fils est rentré en petite section. Il avait 33 mois, donc à peine 3 ans. Ils étaient 39 sur la photo de classe en fin d'année scolaire et il manquait encore 3 élèves. Ce qui fait une classe de petite section à 42 élèves.
42 en petite section.
Voilà, en 91. Nous avons déménagé, nous l'avons donc changé d'école parce qu'en plus il y avait plus de distance, enfin bon. Je l'inscris dans cette nouvelle école. On commence l'année scolaire à 39 élèves, pardon. On l'a fini à 36. C'était en 92.
On a du mal, Eric Charbonnier, à croire à ces chiffres. C'est la réalité terrain. Vous nous appelez, je rappelle, Pascal de Rennes.
Hein. Ouais, et aujourd'hui, qui m'interpelle encore, parce que ça va être un chantier, mais je ne sais pas s'ils se rendent compte. Moi, où il y a un quartier des quartiers qui se construisent un peu partout chez nous, ils ont fait une première école bien trop petite. Le quartier a continué à s'étendre, ils ont refait une école encore trop petite. Et voilà encore que le quartier s'étend encore. Ils seront obligés de faire une troisième école.
Il y a, Éric Charbonnier, un problème, j'allais dire, tout simplement immobilier et d'investissement aussi, lié à la démographie peut-être.
Oui, et il y a une fracture territoriale en France, c'est-à-dire vous avez là une situation qui est véritablement réelle, avec des classes surchargées dans des villes urbaines, dans certaines parties de régions parisiennes, et puis on a des zones rurales qui se battent pour que leur école ne ferme pas. C'est pour ça que c'était une annonce aussi intéressante d'Emmanuel Macron, de dire il n'y aura plus d'école fermée pour les zones rurales. Le problème n'est pas d'avoir 42 enfants par classe, c'est vraiment d'avoir une classe qui continue de vivre, de trouver des enfants. Donc on est face à une fracture territoriale, mais dans ces zones-là, en effet, il va falloir construire des bâtiments, réfléchir aussi à une architecture un peu plus innovante.
Et réfléchir à des mobilités peut-être aussi qui vont être dures à mettre en place pour les enseignants. Ça, on va y venir dans une seconde. La formation, l'encadrement des élèves. Nous faisons le tour de la question sur ces classes à 24 et on l'a compris, Julie, il était très très vaste. Un grand merci à Pascal qui nous a appelé de Rennes.
Au-delà des 24 élèves par classe, on peut se demander si le gouvernement se donne vraiment les moyens d'améliorer l'école de demain et de revaloriser nos enseignants. François Claus.
Alors, les revaloriser les enseignants, on a entendu Nicolas Glière, là, tout à l'heure, des stylos rouges au téléphone, qui le formulait. Et ça revient énormément au standard, Éric Charbonnier, la formation. Il faut aujourd'hui, on ne peut pas lancer dans le bain un enseignant, c'est un métier spécifique. Cette formation à la française, elle a pour le moment, là aussi, au sein de l'OCDE, beaucoup de retard.
Oui, oui, une statistique, 40% des enseignants en France au collège se sentent insuffisamment préparés sur le volet pédagogique du métier. Voilà, on a une formation exigeante sur les fondamentaux, la maîtrise de la matière, les mathématiques, mais on est moins exigeant sur la partie pédagogique, alors qu'une fois qu'on entre en exercice, on a besoin de cette pédagogie. On est aussi mal accompagné. En Allemagne, il y a une réforme, les jeunes enseignants sont accompagnés pendant 2 ans.
Par une sorte de tuteur qui est là en classe, voilà, également, ou dans les heures hors classe.
Voilà, de tutorat. En France, on a en effet cette première année de stage qui est accompagnée, mais après, on est vraiment livré à soi-même. Et puis, on est souvent assez isolé quand on est enseignant. Les enseignants en France n'ont pas cette culture de coopération entre eux. On voit qu'au collège, vous avez 2 enseignants sur 10 qui ont reçu des commentaires d'un de leurs collègues pendant une année scolaire. C'est la plus petite proportion des pays de l'OCDE. On voit bien que l'enseignant est seul. Ça veut dire aussi, quand il a des problèmes, il doit les régler soi-même. Et je crois que créer cette culture de coopération, ça doit être au cœur aussi de cette réforme pour améliorer le bien-être des enseignants.
Alors, quand on parle de la formation aussi, comme on parlait des classes à 24, on parlait des classes du dédoublement dans les zones d'éducation prioritaire, là, du CP et du CE1, c'est aussi parce qu'on accompagne, on doit accompagner les enfants différemment, on n'est pas seulement là pour aller appliquer un programme à la lettre.
Et exactement, tous les enfants avancent chacun leur rythme, particulièrement dès le plus jeune âge, quand tous les enfants n'ont pas le même niveau, et il faut personnaliser l'enseignement, il faut être capable d'avoir une pédagogie adaptée, du temps pour ceux qui sont plus en retard, du travail en petits groupes pour créer la culture d'équipe, de travail en équipe. Enfin voilà, il y a énormément de possibilités pédagogiques qu'il faudrait mettre en place, mais pour ça, il faut vraiment former les enseignants, leur donner moyen d'accéder à une formation continue qui va leur permettre d'évoluer tout au long de leur carrière.
Mais pour la mise en place des classes à 24 dès la rentrée 2020, il faudrait former combien d'enseignants ? Tout à l'heure, on parlait des estimations contradictoires entre le gouvernement, 3000 classes supplémentaires, entre 2 et 5000, dit exactement le gouvernement, et les syndicats qui parlent de 10 000. Vous diriez, expert, combien il faut former d'enseignants ?
C'est difficile à dire, mais il faudrait à minima former tous les nouveaux enseignants et ceux qui travaillent avec les classes de CPCE1 sur toute cette pédagogie innovante. Mais ça nous fait réfléchir sur cette formation continue. En France, chaque enseignant a à peu près 3,5 jours de formation continue par an. La moyenne des pays de l'OCDE est de 8 jours par an. Donc on comprend bien qu'il faut de la formation continue, et puis il faut aussi avoir les moyens d'appliquer cette formation après. Il faut qu'elle soit valorisée dans la carrière des enseignants. On pourrait faire beaucoup de choses qui permettraient une évolution de carrière des enseignants, et puis aussi une pédagogie qui évolue de façon globale.
Bonjour Lucien, je suis heureux de vous accueillir sur l'antenne d'Europe 1. Vous êtes instituteur en CM2 à Paris. J'imagine que les propos de M. Charbonnier résonnent pour vous.
Oui, bonjour. Il résonne avec beaucoup de sens. Je crois qu'il y a des choses qui sont très très importantes qui viennent d'être dites sur la formation continue, sur le déficit qu'on a, et puis sur la nécessité de développer au-delà du nombre, de la quantité des formations autour de le fait de devoir s'adapter à des publics très variés avec des profils très hétérogènes et avec toutes les ressources pédagogiques qui doivent aller avec. Or, c'est pas forcément exactement la ligne directrice actuellement défendue au ministère.
Et j'imagine, Lucien, que vous attendez avec impatience les annonces concrètes, puisque là, finalement, le président a donné la ligne et qu'on attend le ministre Jean-Michel Blanquer, j'allais dire au tournant. Vous attendez avec, j'imagine, beaucoup d'attention comment concrètement il va mettre ça en musique.
Ouais, on est tous un petit peu circonspects. On se demande comment ça va être possible, grosso modo, de créer ces 2 000, 5 000, 10 000 postes. Sans vraiment embaucher, puisque je rappelle que cette année, par exemple, au concours d'Institut, il y a 1000 postes en moins. Donc c'est vrai qu'il y a comme ça une logique purement mathématique qui pose question à tous les collègues. Moi, dans mon école, je vois par exemple, soit on va ouvrir une classe pour pouvoir mettre les CP et les CE1 à 24, soit on va se retrouver avec les CE2, les CM1, les CM2 à 32, 33, 34 élèves. On va être obligé d'ouvrir un triple niveau CE2, CM1, CM2. Donc on voit que concrètement, ça pose énormément de questions et de problèmes sur le terrain.
Alors,
sans parler
Allez-y, ouais, allez-y, Lucien.
Non, sans parler aussi, j'ai un petit peu écouté ce que disent notamment les élus. Je crois qu'on n'est pas les seuls à être un peu inquiets et circonspects. Je ne sais pas si vous en avez parlé, mais c'est vrai que c'était sur votre antenne. Je crois que l'Association des maires de France demandait également, se montrait très, très en attente de précision parce que ils sont les premiers, étant gestionnaires des écoles, à se demander comment faire, à se demander comment créer les classes, y compris en termes de locaux. Hein. Créer des classes, ça veut dire créer une salle de classe et ça, c'est pas faisable partout. Donc, ça pose vraiment beaucoup de problèmes concrets. Donc, oui, on attend pour savoir comment ça va se mettre en place.
On en parlait à l'instant, justement, à la fois de l'aspect immobilier, l'aspect création de postes. Très intéressant d'entendre vous dans votre école. Vous êtes dans quel arrondissement à Paris, Lucien ?
Je suis dans le 16e arrondissement.
Ah oui, un arrondissement plutôt, on va dire, confortable pour employer,
oui,
pour
oui,
employer
oui,
une méthode. Mais dans votre
plutôt confortable.
Dans votre école, vous dites-vous, donc il va falloir ouvrir une classe de plus. Déjà, matériellement, c'est possible dans l'espace ?
Ah bah non, déjà matériellement c'est pas possible parce qu'on a toutes les classes qui sont prises, donc je vois pas, on peut même pas sacrifier notre salle des maîtres qui doit faire 11 mètres carrés, non, je vois vraiment pas comment c'est possible sauf à construire, et là aussi, à moins de mettre des préfabriqués dans la cour, je ne vois pas comment c'est possible.
Ah, il y a une tente pour
voilà.
aux élèves au milieu de la cour. Oui, on est au cœur. Restez bien avec nous, Lucien, parce que votre témoignage de terrain est passionnant. Et Éric Charbonnier, nous, au cœur de la difficulté, il y a une mesure, comment l'appliquer là ?
Oui, tout à fait. Mais on voit bien que la mesure est bonne sur le papier, mais la mise en œuvre, c'est toujours quelque chose qui est très complexe. Et en France, on a particulièrement de mal dans la mise en œuvre des réformes. On fait beaucoup de réformes depuis deux gouvernements, mais après, il faut la mettre en œuvre. Et puis, on n'a qu'un quinquennat, donc il faut le faire rapidement, alors que l'éducation, il faut du temps.
Il faut du temps
pour réformer. Je crois que les enseignants, à tous les niveaux d'éducation, ont vécu un nombre grandissant de réformes chaque année, et aujourd'hui ils sont un petit peu perdus avec toutes ces réformes, mais là pour la taille des classes à 24, voilà, il va falloir réfléchir aux locaux, à l'organisation, à la création de classes ou surcharger d'autres classes. Ça ouvre tout un nombre de questions sur lesquelles il faudra une clarification.
Et qui se résoudront forcément à long terme. C'est à la fois courageux politiquement de prendre ce type de mesures parce que c'est pas rentable à l'échelle d'un quinquennat et d'une réélection. C'est un combat à plus long terme, mais on a compris qu'il allait être difficile. Allez, on a une dernière question d'auditeurs et de témoignages et nous reprendrons Lucien, instituteur à Paris, qui nous a porté son témoignage. On fait le tour de la question, on aurait besoin de plus de temps pour celui de l'école, Julie. À tout de suite.
Et nous poursuivons notre conversation, nous commentons les mesures annoncées par Emmanuel Macron en matière d'éducation scolaire.
François, oui, et des choses simples qui sont parfois, Julie, compliquées, notamment quand il s'agit de réformer l'école. Je vais reprendre Lucien une seconde au téléphone en le remerciant de son téléphone. Lucien, vous avez parlé avec vos collègues, votre directeur justement de l'annonce Macron, et vous vous sentez investi dans ce projet d'apporter, vous, finalement, votre pierre à ce que la réforme porte ses fruits et avance ?
Alors, à Paris, on est en vacances, donc je vous avoue que je n'ai pas eu mes collègues, mon directeur au téléphone. Nous, on est de toute façon engagés au quotidien, évidemment, à essayer de faire progresser nos élèves le mieux possible. Concernant les réformes et présentement celles dont vous parlez, écoutez, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire. Le jour où il faudra, en effet, mettre en place concrètement en 2020 les classes à 24, on essaiera de faire au mieux, on essaiera de s'organiser. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour l'instant, avant qu'on en discute ensemble, je vois mal comment on peut faire sans que les autres classes pâtissent de ces classes à 24.
Évidemment, et ce qui avait été évoqué très vite au moment des réformes du collège, notamment, pour habiller une classe, on déshabille souvent les autres et on déstabilise le système, et c'est une des conséquences négatives.
Ouais.
Merci Lucien pour votre témoignage, bonne fin de vacances en tout cas. Et bonne rentrée.
Je vous remercie. Je pourrais juste citer juste un dernier chiffre.
Allez-y.
Je suis tombé là-dessus sur les réseaux sociaux et on dit souvent, voilà, oui, les dépenses publiques. Or, je suis tombé sur une statistique d'Eurostat et France Stratégie qui montre qu'en matière de dépenses publiques, en France, on est au-dessus de la moyenne européenne pour ce qui est des retraites, de la vieillesse, des aides sociales, de la santé, de la culture, de la défense, la justice, la police. Et il y a un seul domaine où les dépenses publiques de la France sont inférieures à la moyenne européenne, c'est l'éducation. Donc, je pense qu'à un moment, effectivement, à un moment, si on veut faire vraiment de l'école et du primaire la priorité, il faut investir et il faut y aller vraiment et franchement.
J'imagine que vous faisiez allusion au livre qui vient de sortir, signé Hervé Lebras, « Se sentir mal dans une France qui va bien ». Et dans les chiffres que cite Hervé Lebras, c'est qu'effectivement, on est le pays qui redistribue le plus en termes sociaux dans le domaine de l'éducation. Merci beaucoup encore, Lucien, pour votre témoignage. La réponse, restez à l'écoute, elle va être donnée par M. Charbonnier.
Oui, c'est une réalité. Une dépense globale en moyenne, au niveau de la moyenne des pays de l'OCDE, mais déséquilibrée. C'est-à-dire qu'on dépense vraiment pas assez dans les premiers niveaux d'éducation. Et puis, au lycée, on a une dépense qui explose. Donc, l'un dans l'autre, c'est vrai. On n'a pas mis assez d'argent public et c'était vraiment une nécessité de mettre cet argent dans le premier degré en priorité et bien sûr de ne pas couper l'argent qui est mis dans le second degré.
Voilà pour la réponse. Je voulais prendre Ninon au téléphone qui nous posait une question tout à fait pratique, qui nous appelait de Choisy-le-Roi. Elle est enseignante en petite section, Éric Charbonnier, et elle dit en fait, gonfler la troisième section, ça ne suffit pas. Du terrain, je vois les premières inégalités dès la première section de maternelle.
Je vous dirais qu'il faudrait réfléchir aussi sur la transition entre la crèche et l'école maternelle. Et il faudrait agir sur toute la petite enfance, de la naissance jusqu'à l'entrée dans le primaire, idéalement. Après, il faut bien prendre conscience qu'il y a malheureusement une contrainte budgétaire avec une dette publique élevée qui empêche d'investir à tous les niveaux d'éducation. Donc, commencer par la grande section, le CPCE1, ça semble des âges où il est vraiment important d'agir sur la lecture, sur les nombres, sur la sociabilité. Et si on a de l'argent supplémentaire, bien sûr qu'il faudrait aussi agir sur la petite section, la moyenne section et les autres classes d'école élémentaire.
Voilà la réponse qu'on pouvait faire, Ninon. Et d'ailleurs, vous évoquiez tout à l'heure l'exemple finlandais qui reste l'exemple suprême en Europe de réussite du système scolaire où on travaille dès la première section de maternelle, justement pour limiter les inégalités. Question finale peut-être, Éric Charbonnier. Est-ce qu'on a, parce qu'on a vu dans les témoignages d'auditeurs, la grande difficulté, c'est tout le monde est d'accord pour la réforme et tout le monde se dit elle va être compliquée à agir réellement et à être mise en œuvre. Est-ce qu'on a un exemple d'un pays qui a réformé son système et qui est parvenu dans un délai raisonnable?
Allez, pour rester en Europe, je vous en cite trois. Le Portugal, le Royaume-Uni, l'Allemagne. Tous les trois ont investi dans les premiers niveaux d'éducation, ont réduit la taille des classes, ont mieux formé les enseignants. Et on a vu au bout de 5-6 ans une performance qui s'est élevée et des inégalités qui se sont réduites. Donc ça montre que des réformes ciblées sur les besoins peuvent être bénéfiques et assez rapidement.
Et vous chiffrez ça, les effets, à 5 à 6 ans?
Oui, 5 à 6 ans, les premiers effets. Et puis, ça a un effet sur le long terme aussi. Une réforme sur la formation des enseignants, on commence à voir les premiers effets au bout de 5-6 ans. Au bout de 20 ans, tous les enseignants ont bénéficié de cette réforme. Et là, il y a un véritable boost dans le système d'éducation.
Alors, chiffre peut-être difficile, Éric Charbonnier, à mettre en exergue, mais on évoquait à l'instant la part consacrée à l'éducation dans chacun des grands pays de l'OCDE. Le budget de l'éducation nationale continue à être l'un des principaux budgets de l'État, mais il faut encore donner plus, forcément. Il n'y a pas d'autre solution?
Oui, il y a la nécessité de donner plus, mais il y a la nécessité aussi d'évaluer plus comment on utilise cet argent. Ce qui manque en France, c'est vraiment cette culture d'évaluation. Évaluer les réformes, être capable de voir ce qui fonctionne, de corriger quand ça ne fonctionne pas, c'est ça aussi qui aidera notre pays à progresser. On a eu tellement de réformes sans évaluation qu'on perd en lisibilité. Regardez les rythmes scolaires, on est passé à 4 jours, 4 jours et demi, 4 jours. Et finalement, on n'a jamais évalué vraiment qu'est-ce qui était mieux pour le rythme de l'enfant. On a des éléments, mais on n'a pas une évaluation complète qui nous montre à 4 jours et demi, c'est mieux quand on applique telle pédagogie, par exemple.
Et je crois que c'est cette évaluation culture. Pour les classes à 24, on va la mettre en place?
Sur les CPD doublés, elle a été mise en place. Il faudra aussi la mettre en place sur les classes à 24, sur la réforme du bac, sur les devoirs faits. Tout ce qui a été mis en place, il y a cette nécessité de créer cette culture d'évaluation.
Merci beaucoup, Éric Charbonnier. Vous avez été un instit parfait, très pédagogue. Vous avez rempli toutes les fiches. On a compris que derrière les classes à 24, il faudra de l'immobilier, il faudra de la formation, il faudra des postes, de l'argent, il faudra de l'évaluation. Mais il était temps de faire le tour de cette question. Merci Julie, plaisir de partager ces deux heures. On se retrouve demain.
À demain, c'était François Claus et c'était le tour de la question.